Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons d'une banque, la Banque africaine de développement. À l'occasion de l'élection de son nouveau président, le Rwandais Donald Kaberuka passera définitivement la main début septembre, après deux mandats de 5 ans, 10 ans au total. L'élection de son successeur aura lieu la semaine prochaine à Abidjan, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de la banque, et il y a 8 candidats. L'enjeu est important parce que la Banque africaine de développement est une des institutions très prestigieuses du monde économique et financier africain, et que l'Afrique est à un tournant de son histoire économique entre sous-développement et émergence. Pour évoquer cette Banque africaine de développement, pour faire le point sur l'essor économique du continent, deux invités dans ce studio que je vous présente tout de suite. Bonjour Étienne Giros.
Bonjour.
Vous êtes le président délégué du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique. Qu'est-ce que c'est que le CIAN exactement ?
C'est une association qui regroupe les principaux groupes français et les moins importants aussi, investis en Afrique. Donc pour entrer au CIAN, ou pour même membre du CIAN, il faut travailler en Afrique, y exporter ou avoir l'intention de le faire à très court terme. Nous avons 140 adhérents et nos adhérents représentent à peu près 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le continent. Nous sommes donc très impliqués.
Très impliqués dans l'Afrique noire francophone ou
L'Afrique dans son entier, en totalité. Nous couvrons les 54 pays de l'Afrique, y compris Madagascar et l'île Maurice.
Donc ce sont les Bouygues, les Oranges, les grands
groupes. Les Bouygues, les Oranges, les Bolloré, les sociétés générales, mais aussi des groupes un petit peu moins connus du grand public, mais très important en Afrique comme Castel ou Somdia, et aussi un certain nombre de PME dans le secteur de l'agroalimentaire ou dans la recherche d'entreprise ou de la finance.
Avec nous également dans ce studio Gilles Dufresneau. Bonjour Gilles Dufresneau.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur de sciences éco à l'université Aix-Marseille, chercheur associé au CEPI, avec 2i, le principal centre de recherche français dans le domaine de l'économie internationale. Et puis de 2004 à 2008, vous avez été conseiller du commissaire chargé des politiques économiques de la commission de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Gilles Dufresneau, est-ce que c'est un poste où vous avez eu beaucoup à traiter avec la Banque africaine de développement ?
Absolument, dans la mesure où la Banque africaine de développement a un certain nombre de projets qui visent à l'intégration régionale. C'est effectivement un partenaire que nous avons rencontré très souvent.
Alors, au cours de cette émission, nous entendrons des extraits des interviews que certains des candidats ont accordées à RFI lors de leur passage par Paris, car la campagne pour l'élection à la présidence de la BAD se passait aussi beaucoup à Paris. Nous entendrons également Hélène Garnim-Ganga, la représentante résidente de la Banque africaine de développement au Mali, et l'interview que m'a accordé Paul de Remaux, l'ancien patron de la banque privée Bank of Africa. Gilles Dufresneau, dans quelle mesure la nomination d'un nouveau patron pour la Banque africaine de développement est quelque chose d'important ? Je disais que c'était un organisme prestigieux, mais est-ce que c'est quelque chose d'important dans la vie économique du continent ?
Oui, c'est quelque chose de très important parce que la Banque africaine de développement est un peu l'équivalent de la Banque mondiale en Afrique. Et on attend d'elle, évidemment, non seulement qu'elle finance le développement, mais également c'est une pourvoyeuse d'idées nouvelles. Vous savez que l'Afrique est actuellement à un tournant de plusieurs points de vue, on en reparlera peut-être, et que la Banque africaine de développement accompagne non seulement les décideurs, mais également les acteurs sur le terrain pour impulser, pour les accompagner dans ce nouveau développement. Donc c'est quelque chose qui va être effectivement très important.
Est-ce que le poste de président est fondamental dans cette énorme structure ?
Oui, parce que le président, c'est un petit peu le chef d'orchestre, le coordonnateur, et puis c'est aussi celui qui fait la liaison avec non seulement les pays africains, mais les bailleurs multilatéraux et bilatéraux occidentaux.
De votre point de vue, Étienne Giros, c'est aussi un poste important, celui de président de la Banque africaine de développement ?
C'est important parce que c'est lui qui est le porteur du projet et qui assure la communication et la liaison avec les autres acteurs. Donc oui, en ce sens, il est important. Autrement, c'est une administration très bien huilée, qui fonctionne elle-même d'une manière très organisée.
Vous dites administration pour une banque, ça surprend un peu.
Oui, parce que ça n'est pas, c'est une banque de développement. Ça n'est pas une banque commerciale dont le but ultime ou premier est de faire du profit ou du bénéfice. C'est d'assurer le développement et la lutte contre la pauvreté. Simplement, il y a plusieurs institutions de financement multilatérales ou de développement dans le monde, la Banque mondiale, l'AFD, d'autres institutions, mais celle-là est typiquement et exclusivement africaine, et c'est en cela qu'elle est intéressante, et par ailleurs, elle est gérée par des Africains, ce qui est un point non négligeable de son fonctionnement. Positif.
Gilles Dufresneau, une banque de développement, c'est quoi exactement ?
Ah, une banque de développement, c'est une banque qui finance des activités de développement, que ce soit des activités sectorielles ou des activités macroéconomiques. En ce qui concerne la BAD, il faut rappeler que dans les années 60, la BAD est née alors que un certain nombre de pays allaient acquérir leur développement, leur indépendance, pardon. Et donc l'idée de la BAD, c'était il nous faut une banque sur le continent africain qui aide les différents pays à émerger d'un point de vue économique. Donc une banque de développement, c'est une banque qui finance et qui aide au développement des pays, tout simplement.
Mais l'Afrique n'est pas le seul continent à disposer de sa banque de développement. Il y a la BID, la Banque interaméricaine de développement, il y a une autre BAD qui est la Banque asiatique. Est-ce qu'elles ont le même rôle ?
Elles ont le même rôle, mais peut-être un fonctionnement un petit peu différent. Je dirais que le caractère panafricain de la Banque africaine de développement est peut-être un petit peu plus prononcé que n'est le caractère panaméricain de la Banque interaméricaine de développement ou même chose pour la Banque asiatique de développement. Mais elles jouent effectivement chacune dans son espace géographique un rôle identique.
Bon. Étienne Giros, vous faites la différence très nette entre banque de développement et banque d'investissement. Pourtant, il y a beaucoup d'investissements de la Banque africaine de développement.
Oui, bien entendu. Mais les critères de choix des projets et leurs critères de financement sont légèrement différents. Il me semble qu'une banque de développement doit d'abord regarder l'utilité macroéconomique du projet qu'elle va financer. Une banque privée ne va pas regarder l'utilité économique du projet. Elle va regarder le sérieux du projet et la bancabilité du projet, si vous me permettez cette expression, et les garanties apportées par les porteurs du projet. Une banque de développement, elle va regarder si ce projet est utile à l'économie du pays et crée du développement inclusif. Donc on voit bien quand même que la motivation est légèrement différente. Alors après, ça se décline évidemment par des approches plus techniques. Il y a évidemment des questions de garantie, taux d'intérêt qui se posent. Ça oui. Mais la motivation première, c'est le développement et c'est non pas ni la sécurité, ni la rentabilité.
Gilles Dufresneau, vous êtes d'accord ? La rentabilité n'est pas l'objectif de ces banques de développement ?
Alors, tout de même, quand même, parce qu'il faut rappeler qu'une banque de développement prête de l'argent et que elle pour emprunter cet argent, elle emprunte sur les marchés de capitaux, elle emprunte auprès de différents partenaires et donc elle doit s'assurer que l'argent sera remboursé. Donc, il y a tout de même un critère de rentabilité, ne serait-ce que pour la gestion de la banque. Mais c'est vrai que un des objectifs, c'est quand même l'objectif plus général de réduction de la pauvreté, en tout cas en ce qui concerne la Banque africaine de développement. Donc je dirais que l'objectif de rentabilité n'est pas l'objectif le plus important, mais il compte tout de même, me semble-t-il.
Étienne Giraud,
il est là, l'objectif de rentabilité et surtout de sécurité et de remboursement est évidemment là, mais le critère premier c'est le développement. C'est donc simplement la hiérarchie des critères qui change.
Alors j'ai interrogé sur cette Banque africaine de développement Paul de Remous, je lui ai demandé si cette banque était à ses yeux quelque chose d'important dans l'économie africaine. Paul de Remous est bien placé pour répondre puisqu'il a fondé et dirigé pendant de très longues années Bank of Africa, une banque privée qui opère évidemment en Afrique. On écoute les réponses de Paul de Remous.
C'est l'une des grandes institutions de l'Afrique, à mon avis, parce que à la fois elle est ancienne, elle date presque des indépendances, elle est puissante financièrement. Je crois que c'est la seule institution africaine qui est cotée 3A, avec des actionnaires régionaux, mais aussi des actionnaires internationaux qui lui donnent cette puissance financière, mais aussi cette possibilité d'augmenter de manière importante ses fonds propres. Et puis, de plus en plus, elle joue un rôle d'émetteur d'idées, de mise en avant de priorités pour l'Afrique, que beaucoup s'accordent ensuite à considérer comme effectivement importantes et qu'ils appuient.
Donc, Paul de Remous, vous avez prononcé le mot rôle pour la Banque africaine de développement. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans la croissance des pays africains ces 10 dernières ou 15 dernières années ?
Oui, bien sûr, à cause des financements très importants qu'elle a mis en place, au profit d'un certain nombre de secteurs et plutôt au profit des États. Mais je crois qu'elle a joué surtout un rôle dans les choix qu'elle a fait. Prenons un exemple qui est très important, celui des infrastructures, dont elle a fait un de ses chevaux de bataille prioritaire. Et c'est maintenant considéré de manière universelle comme une des conditions préalables du développement. Donc tous ces financements ont été essentiels, mais aussi sa façon de procéder, par exemple en prenant des positions de prêt vis-à-vis de projets qui paraissaient difficiles.
Par exemple ?
J'ai en tête le barrage de Kandaji au Niger, qui avait été longtemps écarté par les plus grands investisseurs internationaux et que la BAD et, ainsi que la Banque islamique de développement ont promu, soutenu et qui devrait bientôt être terminé.
Alors Paul de Remeau estime que la Banque africaine de développement joue un rôle moteur, un rôle de locomotive, que c'est la BAD qui dicte en quelque sorte l'agenda du développement en Afrique. Vous en pensez quoi, Gilles Dufresneau ?
Alors écoutez, moi je serais un peu plus nuancé parce que alors l'Afrique est un continent qui est multiple et puis les intervenants sont également multiples. Ça veut dire, bon, la BAD joue un rôle naturellement important, mais les projets que ce soit dans le domaine des infrastructures, de l'énergie ou bon, les projets font l'objet de financement de la part de bailleurs multilatéraux qui ont aussi leur vision.
Donc, les bailleurs multilatéraux, c'est la Banque mondiale,
c'est la Banque mondiale, c'est le Fonds international, et n'oublions pas également les bailleurs bilatéraux que sont les pays, le Japon, les États-Unis, etc. jouent un rôle. C'est très important de dire cela. Pourquoi ? Parce que en matière de financement, vous savez qu'il y a plusieurs guichets. Les pays peuvent demander leur financement auprès de ce qu'on appelle la BAD ou d'un autre fonds qu'on appelle la FAD, le Fonds africain de développement, qui, lui, est alimenté principalement par les bailleurs de fonds, on va dire, des pays industrialisés, qui ont donc, et notamment, qui en matière de droit de vote, ont un point important. Je parlais des États-Unis, je parlais du Japon, mais également des autres pays européens. Donc, si vous voulez, il peut y avoir plusieurs visions, et le travail peut être pas difficile de la Banque africaine de développement, c'est d'essayer de mettre tout ceci en coordination.
Étienne Giros, vous êtes d'accord
avec ce
bémol que met
Gilles Dufresneau ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Afrique d'aujourd'hui, par rapport à celle d'il y a 20 ans, la grande différence économique qu'elle connaît, et sociologique d'ailleurs, c'est son ouverture à la mondialisation. On interroge souvent pourquoi l'Afrique a-t-elle aujourd'hui un taux de croissance de 6% alors qu'elle ne l'avait pas dans les années 90. C'est pas une opération magique qui s'est passée. Je pense, à mes yeux en tout cas, que la grande réponse à cette question, c'est l'ouverture à la mondialisation grâce à Internet, le développement des voyages. Internet a joué un rôle absolument clé, des formations différenciées pour les gens. Donc, cette ouverture à la mondialisation, elle s'est aussi traduite par un léger changement dans les modes de financement des projets de développement. Dans le temps, après les indépendances, si je puis dire, c'était relativement bilatéral. L'AFD finançait les développements
de pays francophones,
l'Agence française de développement. Aujourd'hui, les financements sont beaucoup plus multilatéraux et les projets sont plus importants et plus lourds à porter. Donc vous allez avoir un projet, construction d'un barrage, d'une ligne de chemin de fer ou d'un port, qui va être financé par 3 ou 4 institutions ensemble. Donc vous allez avoir l'Agence française de développement, l'Union européenne, qu'on n'a pas encore citée, mais qui est très importante dans le financement, la Banque mondiale, peut-être un peu de SFI, qui est
le bras financier,
de la Banque mondiale pour le privé, et la Banque africaine de développement, qui ensemble vont se mettre en pool. Il y aura peut-être un leader là-dedans, mais il y aura peut-être 3 ou 4 financeurs dans un pool. Ça, c'est un élément relativement nouveau.
Alors, on va aller un peu sur le terrain, au Mali précisément, où Hélène Garnim-Ganga est la représentante résidente de la BAD. Elle fait le point sur les actions de sa banque, au micro Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de David Bachet.
Comme vous le savez, le Mali sort d'une grave crise. C'est un pays en transition. La BAD a essayé d'accompagner le pays en se penchant sur des questions cruciales comme celle de l'eau, en finançant, et d'ailleurs nous sommes l'institution lead sur ce projet qui s'appelle le projet Kabala, qui est en fait un gros projet d'adduction en eau potable sur la ville de Bamako, qui est un projet qui va amener de l'eau potable à des milliers de personnes et qui notamment va beaucoup aider les populations les plus défavorisées. Nous avons également des projets routiers puisque nous avons développé l'axe Bamako-Dakar, l'axe qui va vers la Guinée, avec l'idée de désenclaver le pays. Nous allons nous pencher au cours de cette année, je l'espère, sur l'axe qui descend vers la Côte d'Ivoire et le reprendre de l'autre côté de la frontière de la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'à San Pedro en Côte d'Ivoire.
Donc essentiellement des projets d'infrastructure pour aider le Mali à se reconstruire et à se développer ?
Absolument. Nous avons eu un très très gros projet social qui vient de se finir cette année, qui consistait beaucoup plus en de petites infrastructures, mais qui avait évidemment un impact extraordinaire, parce que vous imaginez qu'un dans un village, si vous n'avez pas d'eau et que les femmes font 3 ou 4 kilomètres pour aller chercher de l'eau, si vous leur creusez un puits dans le village, ça fait un changement dans leur réalité quotidienne extraordinaire. Le plus gros de notre portefeuille, je dois l'avouer, en fait, réside dans les projets de développement rural, puisque nous faisons énormément d'irrigation et énormément de résilience, de sécurité alimentaire, gestion de l'eau, élevage. Ça fait à peu près, en tout cas, plus de 60% de notre portefeuille.
Alors, c'était Hélène Garnim-Ganga, la représentante résidente de la BAD à Bamako. C'est un catalogue impressionnant qu'elle dresse, là, Gilles Dufresneau.
Mais oui, absolument, mais la BAD est tout à fait dans son rôle, comme elle l'a toujours été. Peut-être que il faut souligner que l'une des différences, par exemple, entre le Fonds monétaire international, qui est aussi un pourvoyeur de fonds des pays, et puis la Banque africaine de développement, c'est que la Banque africaine de développement va financer des projets très ciblés, des micro-projets. Ça veut dire qu'elle n'a pas simplement un point de vue macro-économique, mais également un point de vue micro-économique, au plus près, on va dire, de l'habitant dans les villages. Et donc ça, c'est, elle est dans son rôle, absolument.
Étienne Giros, on a quand même beaucoup l'impression qu'elle travaille là-bas avec les États, et pas du tout, ou très peu, avec le secteur privé. Amplifier le soutien au secteur privé, c'est d'ailleurs le principal argument d'un candidat à la succession de Kaberuka, l'Éthiopien Soufiane Ahmad, qui est ministre des Finances de son pays depuis 20 ans. Vous en pensez quoi, vous, de la relation entre cette banque de développement africaine et puis le secteur privé? Est-ce que vous pensez qu'il y a une lacune là?
Je dirais pas qu'il y a une lacune, mais je dirais qu'il faut que tout le monde, et là-bas en premier, soit bien certaine d'une chose, c'est que la création de richesse, elle provient de l'entreprise. Le public ne crée pas de richesse. Le public, il organise le secteur public, les États et ses démembrements. Ils organisent les règles du jeu, ils donnent des impulsions, ils arbitrent, donc ils ont un rôle absolument clé. Mais la richesse primaire, elle est créée par l'entreprise, qu'elle soit grande ou petite d'ailleurs. Et donc, il faut financer l'entreprise et créer les conditions pour qu'elle puisse se développer. Et vous aviez dit tout à l'heure dans votre introduction une chose très juste, qui est que ça commence par les infrastructures. De croire que le développement peut se mettre en œuvre et en place d'une manière durable et sérieuse, sans infrastructure, c'est-à-dire sans transport aérien, sans route, sans désenclavement des pays de l'intérieur, le Mali, le Niger, le Tchad, si ces pays-là n'ont pas accès à la mer, n'ont pas de route pour développer un marché régional. Leurs marchés sont petits. Il faut développer des marchés régionaux. Il faut des routes, il faut des avions, il faut des infrastructures. Il ne faut pas de coupure d'eau, il faut de l'électricité. 30% des Africains, globalement, en gros, seulement, ont accès à l'électricité. Ça n'est pas tolérable. C'est la blague de croire que le développement pourra se faire sans infrastructure. Donc il faut tout focaliser là-dessus. Et puis il y a une deuxième chose sur laquelle il faut focaliser l'effort, c'est aider les entreprises à créer des emplois, et notamment un secteur intermédiaire, une classe moyenne, conduite par des entrepreneurs africains eux-mêmes.
Gilles Dufresneau, vous êtes d'accord avec cette répartition des rôles, en deux mots ?
Oui, je suis entièrement d'accord. À ceci près que je crois, vous savez qu'il y a un grand débat actuellement, celui de savoir est-ce que la notion d'État entrepreneurial en fait existe, parce que si on compare avec les pays d'Asie, la grande différence, voyez, alors que par exemple le Fonds monétaire international préconisait l'ouverture au marché des États, etc., on s'aperçoit que les États ont joué un rôle très important dans les pays d'Asie pour impulser leur développement. Donc je pense qu'il y a une complémentarité en quelque sorte entre le secteur privé et puis le rôle des États.
Alors c'est la fin de la première partie de cette émission consacrée à la Banque africaine de développement, à la succession de Donald Kaberuka, son actuel président, et aux enjeux pour les économies africaines. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici. d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de la Banque africaine de développement, un des maillons importants de l'économie africaine. La banque se réunit la semaine prochaine à Abidjan, où son siège est désormais installé. Le grand sujet, c'est la succession de l'actuel président, Donald Kaberuka. Il y a 8 prétendants, mais le thème officiel de l'Assemblée générale de la BAD, c'est l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Pour parler de tout cela, dans ce studio, deux invités, le professeur de sciences économiques Gilles Dufresneau, ancien conseiller à l'UMOA, et Étienne Giraud, président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que la Banque africaine de développement occupait une place clé dans le monde économique africain, dans le monde du développement de l'Afrique. Elle suscite donc beaucoup d'appétit. Certains des candidats sont passés par Paris pour faire campagne et Abla Junaidi du service économique de RFI les a rencontrés. On écoute un premier reportage d'Abla Junaidi.
Il est celui qui a obtenu le plus de parrainages. 11 pays le soutiennent, mais l'homme modeste affirme que cela n'augure en rien de sa victoire. Birama Sidibé connaît bien la maison BAD. Il y a passé 24 années avant d'intégrer la Banque islamique de développement comme vice-président. Si la BAD reste un formidable outil de développement du continent, il faut poursuivre la recherche de nouvelles sources de financement.
Pour moi, notre métier de banquier doit changer pour devenir un métier de facilitateur. Parce que tout l'argent dont l'Afrique a besoin pour faire l'énorme programme d'infrastructure ne se trouve pas dans les coffres de la BAD, ni dans la Banque mondiale, ça suffit pas. Il faut attirer les fonds de pension en mettant des titres de propriété sur le marché qui sont adossés à ces grands projets-là. Il faut pouvoir attirer l'investissement des autres.
Akinwumi Adesina, verbe haut et nœud papillon extravagant, vient du Nigeria, devenu première économie du continent l'an passé grâce au pétrole. Mais l'actuel ministre de l'Agriculture, ultra favori, aime dire que le pétrole ne se mange pas. C'est l'industrie agricole qu'il veut développer sur le continent.
On a changé complètement le secteur agricole. Mmh. Aujourd'hui, nous avons pu produire 21 millions de tonnes de produits agricoles pendant 3 ans. On a fait chuter les dépenses sur l'importation au Nigeria qui était est très élevé. Avec cette transformation quand même, nous avons pu créer de l'emploi de 3 millions de personnes. Donc c'est toutes ces compétences qu'on y amène à ces travaux pour ma candidature à la banque.
Mais les obstacles sont toujours les mêmes. Infrastructures défaillantes, intégration régionale encore timide et taux de bancarisation encore trop bas. Birama Sidibé le sait bien, 12% de ses compatriotes maliens ont un compte bancaire.
Celui qui est censé être pauvre a beaucoup d'imagination. Il lui manque un peu d'argent pour faire travailler. Et cet un peu d'argent, pour moi, ne doit pas venir de la BAD. Il doit venir du système bancaire.
Alors, on a entendu déjà deux candidats à la présidence de la BAD. Gilles Dufresneau, vous les connaissez, ces candidats?
Alors, je ne les connais pas personnellement. J'ai lu un certain nombre de leurs propositions. Évidemment, chaque candidat a des atouts dans son programme, mais il me semble que un des enjeux importants en ce qui concerne le développement de l'Afrique va reposer sur le développement de l'industrialisation de l'Afrique. Est un sujet dont on parle pas souvent. C'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur l'agriculture, mais l'Afrique doit aussi s'industrialiser. Les Chinois poussent à cela et il me semble qu'il y a un certain nombre de candidats qui font des propositions dans ce sens, qui réfléchissent à la...
Lesquels?
Notamment la candidate du Cap Vert qui réfléchit à la manière dont on peut ce qu'elle appelle la transition, on peut transformer un petit peu, faire évoluer le système productif africain. Ça me paraît quelque chose de très très important.
La candidate du Cap-Vert, c'est Christina Duarte. Vous en faites votre favorite?
Alors, je ne ferai pas partie de ceux qui voteront, mais je trouve que cette thématique-là est très importante. Pour moi, c'est un des grands enjeux de l'Afrique pendant les années qui vont venir.
Étienne Giraud, vous devez être sensible à ce point de vue, l'industrialisation, vous qui êtes un homme d'industrie, d'entreprise
privée. C'est absolument clé et c'est ce que j'appelle le développement d'un tissu industriel en Afrique. La croissance en Afrique, qui est forte aujourd'hui, elle provient encore trop des matières premières et du coût des matières premières. Et elle a deux défauts, qui ne sont pas des critiques, qu'il faut simplement, auxquels il faut faire face. Le premier, c'est qu'elle est assez peu créatrice d'emplois, la croissance aujourd'hui. Or, nous avons une croissance démographique très forte, et nous avons une course contre la montre à gagner. Il y a aujourd'hui peut-être 6% de croissance en Afrique, mais il y a une croissance démographique de
3-4%. Plus même parfois.
Plus parfois. Mais quand vous avez, vous faites face à une croissance démographique de 3 ou 4%, il ne reste plus que 2% de croissance réelle. Et si vous y ajoutez là-dessus 2% d'inflation, il reste rien en pouvoir d'achat. Et paradoxalement, la pauvreté peut augmenter en proportion ou en quantité, selon les cas.
Et donc, il vous semble que dans les programmes des candidats que vous avez passés en revue, il y a des gens qui répondent bien à ces questions.
J'ai par exemple bien apprécié ce qu'a dit le candidat précédent quand il a dit que...
Lequel?
Le Malien? Le Malien, oui. Quand il a expliqué que pour le développement du tissu industriel africain, il y avait beaucoup d'idées, et ça c'est exact, mais que c'est le système bancaire traditionnel qui doit les financer. C'est pas la BAD qui va financer un entrepreneur africain qui veut développer un business. En revanche, la BAD, elle doit financer des infrastructures, un cadre général. Et ce qu'il faut savoir, à mon avis, c'est que en Afrique, ça n'est pas tellement l'argent qui manque. Ce sont les projets de qualité. L'argent, il y en a. Les bailleurs de fonds, ils ont de l'argent. 6 milliards de disponibles par an pour la BAD, 8 milliards pour l'AFD, la Banque mondiale encore plus, l'Union européenne, etc. Les fonds d'investissement, vous les avez cités tout à l'heure, sont tous très intéressés par l'Afrique et lèvent des centaines de millions d'euros pour financer des projets en Afrique.
Les fonds d'investissement privés, vous.
Les fonds d'investissement privés, oui, qui sont là pour faire de l'argent. La diaspora envoie beaucoup d'argent en Afrique. Et enfin, le système bancaire africain a du cash, il y a de l'argent. Donc, paradoxalement, ça va peut-être un peu surprendre certains de vos auditeurs, mais ça n'est pas tellement l'argent qui manque, c'est les projets de qualité. Et il faut les orienter dans deux axes, les infrastructures, qui est le démarrage de tout, c'est le démarrage de tout, et deuxièmement, la création d'un tissu industriel avec l'émergence d'une classe moyenne africaine. Ce ne sont pas les étrangers qui doivent développer cette industrie de transformation. Ce sont les Africains eux-mêmes. Et tout ce qui est bon pour l'Afrique, tout ce qui est bon pour l'environnement africain en économie, est bon pour les entreprises françaises que je représente aussi. Donc on est en faveur de tout cela.
Gilles Dufresneau, vous êtes d'accord avec ce point de vue? C'est pas l'argent qui manque, ce sont les idées?
Alors moi, je suis d'accord. Je pense que c'est quelque chose auquel il faudrait sensibiliser l'opinion publique et les acteurs. Deux choses donc qui sont importantes. Le fait que les idées viennent des acteurs sur le terrain, parce que ce sont ceux qui connaissent le mieux la réalité. Et puis le fait, vous savez, quelque chose dont on parle également en matière de création de valeur ajoutée. Un des problèmes de l'Afrique, c'est cela, c'est la difficulté à créer de la valeur ajoutée en raison de sa spécialisation en fait à l'échange international. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire évoluer de façon très très forte.
Quand vous parlez de la spécialisation à l'échange international, vous voulez dire qu'elle ne vend que des matières premières brutes?
Alors, elle ne vend, je prends un exemple tout à fait concret, je prends le cacao, vous prenez le Ghana qui est un très grand exportateur de cacao.
Deuxième au monde.
Le chocolat que nous mangeons devrait être fabriqué par le Ghana. Et si le Ghana fabriquait le chocolat que l'on mange dans le monde, le Ghana serait un pays très, très riche. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas parce que, eh bien, cette matière première, elle est tout simplement exportée, elle va être transformée et il va y avoir de la création de valeur ajoutée ailleurs. Et donc, l'exemple qu'on donne pour le cacao, on pourrait le donner pour un certain nombre de matières premières, pour un nombre de minéraux. Et c'est donc là un des enjeux, c'est que les pays arrivent, et ça ne peut pas se faire sans industrialisation, ça ne peut pas se faire sans innovation, mais en Afrique même, il faut que les pays puissent transformer, ajouter de la valeur ajoutée à ces matières premières. Et juste un petit mot pour dire que les Chinois ont une petite avance sur nous parce que la Chine a compris ça dès le début.
Quand vous dites nous, c'est qui?
Alors quand je dis nous, ce sont les partenaires traditionnels, on va dire, de l'Afrique, les Européens, par exemple, les Américains. Les Chinois ont compris que le point important, enfin, les Chinois disent toujours, on peut pas se développer s'il n'y a pas d'industrie, où sont les usines, etc. Et la Chine, vous savez, a mis en place un certain nombre de zones franches en Afrique, les Shenzhen africains, c'est quelque chose qui marche beaucoup. À mon sens, c'est la bonne direction, et peut-être que la BAD pourrait aider un petit peu à aller dans ce sens.
Étienne Giraud, vous pensez que la BAD peut aider?
Rebondir sur cet exemple du cacao ghanéen, qui est un très bon exemple. Mm-hmm. On peut déplorer ce que vous dites, et vous avez raison de le dire. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le cacao, premier producteur Côte d'Ivoire, deuxième producteur de Ghana, il est pas transformé en chocolat en Afrique? Pourquoi est-ce qu'on va le transformer à 6000 km de là? Mais tout simplement parce que, pardonnez-moi si je radote, mais les infrastructures manquent, le cadre général manque, la taille du marché est trop petite aussi, parce que si c'est pour fabriquer du cacao qui va être vendu en quasi-totalité en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, il vaut effectivement mieux peut-être le fabriquer près des marchés de vente. Donc la taille des marchés, ça veut dire la régionalisation, ça veut dire des infrastructures. Et puis la deuxième chose, c'est la formation. Si on veut développer une vraie activité, un tissu industriel, il faut qu'il y ait de la formation. Et c'est un sujet, par exemple, que le CIAN prend en main très sérieusement. Et il nous semble que c'est aussi un sujet clé. Et voilà les grandes orientations que la BAD, par exemple, doit prendre. C'est s'occuper de ces questions générales d'environnement économique, d'infrastructure et de formation. Et voilà pourquoi je dis que je soutiens tout candidat qui dit « Mon but n'est pas de financer, nous la BAD, de financer une petite entreprise privée. Il faut qu'on crée le contexte pour que l'industrialisation puisse se faire. »
Alors, vous devez savoir qu'il y a une entreprise française qui vient d'installer une usine à Abidjan pour faire du oui. chocolat. L'entreprise, c'est moi. Mais revenons à la Banque africaine de développement. Elle a quand même quelques défauts. On parle, par exemple, souvent de sa lenteur à traiter les dossiers, à pratiquer les décaissements. Lenteur confirmée par la représentante résidente à Bamako, Hélène Ngarlim-Ganga, au micro Écho d'ici Écho d'ailleurs, de David Bachet.
Oui, effectivement, c'est un problème. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Nous aimerions tous que les taux de décaissement soient meilleurs. Et je dis tous, puisque malheureusement, je crois que tous les bailleurs sont confrontés à cette lenteur de décaissement. Il y a globalement deux façons de faire les choses. Vous pouvez faire un appui budgétaire et là, vous décaissez vite. Maintenant, vous avez les projets plus spécifiques et là, vous avez une équipe qui va s'occuper de mettre en œuvre un projet particulier, une route, un pont. Et là, vous décaissez au coup par coup, au fur et à mesure, etc. Et là, évidemment, vous avez une gestion qui est beaucoup plus lourde. Forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Ça demande un engagement total de la part des départements ministériels et de la part du bailleur. Ça demande un suivi très poussé. Et n'oublions pas quand même que nous nous trouvons dans un pays en transition. Il y a clairement un manque de ressources, il y a clairement un manque de compétences. Le pays est immense. Ce n'est pas toujours facile, et pour le gouvernement et pour nous, de pouvoir avancer au rythme où on souhaiterait le faire.
Ce qu'on appelle la capacité d'absorption, la capacité du pays à gérer cet afflux d'argent.
Exactement. C'est tout à fait ça.
On comprend cet argument. Est-ce que c'est aussi une manière d'oublier la temporalité des procédures internes à la BAD ?
Non, je ne pense pas. Et je pense que vous avez raison de le dire. Il y a clairement un effort à faire de la part de nos grosses structures pour pouvoir agir plus rapidement, pour être plus efficace. Il y a un effort qui est fait. En ce moment, par exemple, nous sommes en train de revoir nos règles d'acquisition des biens et services pour justement essayer de nous adapter à des pays en transition où des règles et des procédures trop lourdes deviennent un frein aux dites acquisitions et donc à la mise en œuvre des projets. Donc c'est un effort sur lequel nous travaillons tous pour essayer d'accélérer les choses.
Gilles Dufresneau, c'est un vrai problème, cette lenteur que confirme Hélène Ngarlim-Ganga?
Oui, c'est un problème et c'est une difficulté que malheureusement on rencontre dans toutes les institutions multilatérales, bilatérales qui financent le développement. Ces procédures, il faut tout de même rappeler qu'elles ont une raison, c'est que il s'agit d'argent public, au sens de l'argent public
international.
International, et qu'il n'est pas question que le moindre centime soit dépensé de façon inappropriée, on va dire ça comme ça. Et donc ces procédures, elles avaient initialement pour objectif de pouvoir assurer un contrôle du circuit de l'argent, si on peut dire ça comme ça. Mais elles ont la contrepartie, effectivement, d'engendrer une bureaucratie et donc une lenteur qui est extraordinaire et qui peut, effectivement, parfois être un frein. C'est vrai.
Parce que ce sont des administrations, Étienne Giros, pour reprendre un mot que vous avez employé tout à l'heure.
Non, ça n'est pas leur nature d'administration qui fait cela. C'est d'abord, ils ont évidemment, c'est des institutions assez grandes et assez grosses, donc elles ont leur propre bureaucratie. Mais une entreprise privée est aussi capable d'avoir sa propre bureaucratie. Ça dépend de la taille. Non, je pense que d'abord, ce phénomène de lenteur qui est souligné, je partage votre point de vue. Il est général. On le retrouve à l'Agence française de développement, à la Banque mondiale, etc. Il n'est pas propre à la BAD. Mais comme vous le dites, il s'explique. En réalité, ces procédures, elles ont pour but d'améliorer la gouvernance ou d'éviter les dérives de gouvernance et, pour parler clair et dire les choses comme elles sont, éviter qu'il y ait des procédures de corruption ou des circuits de corruption, notamment. Et deuxièmement, comme les projets qui sont financés ont des impacts macroéconomiques très importants, il faut les étudier. Quand on finance une route, un bailleur de fonds va commencer à regarder l'impact de la construction de la route sur les chemins de fer, sur les flux de population, etc. Et donc, c'est des études macroéconomiques qui prennent du temps. Donc, il faut bien comprendre. Moi, j'ai eu affaire dans ma vie industrielle au bailleur, et je peux vous dire que
quand
nous
vous
autres...
étiez chez Bolloré.
Oui, quand j'étais chez Bolloré, et des entreprises privées, on peste quelquefois contre la lenteur des procédures. Ça prend des mois et des mois. Il faut faire des papiers, faire des études très longues, etc. Ça n'est pas le rythme du privé. Mais il faut comprendre qu'il y a un but là-dessus. Il ne faut pas les critiquer d'une manière injuste, je trouve. Et puis, je voudrais faire une dernière remarque. C'est que nos concurrents chinois, qui investissent beaucoup l'Afrique en ce moment, eux, ils ont d'autres procédures. Ils viennent avec leur propre BAT, si je puis dire, qui est l'Exim Bank, et ils arrivent avec des financements presque à 100%, et ils s'exonèrent de beaucoup de nos procédures à nous autres, pays du Nord, si je puis m'exprimer ainsi, si vous me permettez. Et donc, ils arrivent à Dunda Bilpion dans des appels d'offres de manière assez grave. C'est pour ça que je pense qu'il faut réagir sur ce sujet.
Alors, c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la Banque africaine de développement qui aura un nouveau président dans quelques jours. Deux invités à ce micro, Gilles Dufresneau, professeur d'université à l'économie d'Aix-Marseille et ancien conseiller à l'UMOA, et Étienne Giraud, président délégué du Conseil des investisseurs français en Afrique. Alors, on continue notre tour d'horizon des candidats et candidates à la présidence de la Banque africaine de développement. Et on retrouve Abla Jounaïdi du service économique de RFI.
Et si c'était la surprise de cette élection, si la seule candidate à la présidence de la BAD passait le premier tour? Forte du soutien des États lusophones et du Luxembourg, l'actuelle ministre des Finances du Cap-Vert, Cristina Duarte, refuse d'être cantonnée à son statut de femme. Elle croit à ses chances et espère bien que son petit pays sera choisi précisément pour sa position de potentiel pivot.
Le fait que Cap-Vert, un petit pays, lusophone, peut mieux garantir la nécessaire équidistance par rapport au bloc traditionnel. Je parle du bloc francophone, du bloc anglophone et du bloc arabophone.
Personne ne le cite comme favori, mais le Tunisien Djalloul Ayad, au profil atypique, banquier et compositeur, a une idée bien précise de ce qu'il veut faire pour booster l'investissement sur le continent. S'il devient le premier banquier à présider l'institution, l'homme qui a mis en place la plus grande plateforme de capital investissement au Maghreb promet de développer l'intégration financière, d'autant, dit-il, que le stock des capitaux en Afrique est gigantesque.
Je pense qu'il est de 11 milliards de dollars aujourd'hui pour seulement la région subsaharienne. L'Afrique doit investir surtout dans les projets d'infrastructure. C'est des projets qui demandent beaucoup de ressources. Il faut mobiliser les ressources internes des pays surtout qui ont les moyens, pour développer ces marchés des capitaux et permettre aux entrepreneurs de trouver les financements dont ils ont besoin. Donc la stratégie de la banque, je pense qu'elle devrait consister à développer les marchés régionaux, et là je parle de marchés financiers surtout, ce qui va permettre que les capitaux qui existent aujourd'hui en Afrique seraient plus facilement investis en Afrique.
Gilles Dufresneau, au début de ce reportage d'Abla Jounaïdi, on entendait Cristina Duarte dire que, issue d'un petit pays, le Cap-Vert, elle pouvait incarner une certaine indépendance par rapport aux grandes nations africaines. Vous pensez que c'est un atout ?
Écoutez, moi, je crois beaucoup à la compétence. Je crois que c'est une candidate qui est compétente. Effectivement, c'est pas parce que c'est une femme qu'on va l'élire, etc. Nous avons tout de même des exemples de femmes qui ont dirigé récemment en Afrique des pays et où ça marche très bien. On a eu Hélène Sirleaf, donc la présidente du Libéria. On a eu une ministre des finances, une ancienne ministre des finances du Nigeria qui est ensuite devenue vice-présidente de la Banque mondiale, donc,
et qui est redevenue ministre des finances.
Et qui est redevenue ministre des finances. Donc c'est vrai que il y aurait un excellent signal pour la BAD d'avoir une femme à sa tête, mais pas parce que c'est une femme, mais parce que personnellement, je trouve ces propositions très en phase avec ce qu'il faut faire pour l'Afrique.
Étienne Giraud, vous êtes aussi un ardent défenseur de cette candidate, ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui vous semblent très pertinents?
Moi, je crois que parmi les 8 candidats qui se présentent, les analyses sont à peu près en phase avec ce qu'il faut faire sur le continent. Donc, je crois que ça va se finir par des arbitrages, à mon avis, politique entre les soutiens des différents États, puisqu'il y a 54 pays africains qui sont membres, plus 26 pays hors Afrique. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui vont peser.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'au Conseil d'administration, il y a la France, les États-Unis, etc.
Il y a 54 pays africains et 26 pays non africains, dont la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Bon. Et il va y avoir quand même beaucoup de choix et de considérations politiques qui vont jouer là-dessus. Et effectivement, in fine, souvent ça peut donner lieu à l'élection d'un candidat ou d'une candidate plus neutre d'un petit pays qui est en réalité ou le plus grand ou le plus petit commun dénominateur, en tout cas qui fait l'unanimité. Mais je crois que les programmes sont à peu près convenable par rapport à ce qu'il faut faire en Afrique. Ce que je voulais ajouter quand même sur l'histoire du financement, le fait qu'il y a de l'argent et qu'en réalité un des candidats, je crois que
c'est le Tunisien Jalou Layat
qui a bien expliqué que en réalité un des rôles de la BAD va être de canaliser tous les flux financiers, de créer des marchés financiers. Il faut avoir deux chiffres en tête, je vais pas vous embêter avec les chiffres, mais j'en donne deux. La BAD finance à peu près 6 milliards de dollars par an. L'AFD, l'Agence française de développement, 8 milliards, pour situer les choses dans le monde. L'AFD, c'est pas exclusivement en Afrique. Et tout le monde est à peu près d'accord pour dire que les besoins d'infrastructure, sur les 10 ans qui viennent, pour équiper en infrastructure à notre niveau, l'Afrique, c'est de 100 milliards de dollars par an, pendant 10 ans. Donc il faut avoir les chiffres. La BAD, 6 milliards. L'Afrique a besoin de 100 milliards. Donc il va bien falloir aller chercher l'argent où il est, c'est-à-dire partout.
Gilles Lufrenot, je voyais sourire, réagir à l'évocation de ces chiffres.
Oui, vous avez tout à fait raison. Ça montre, ça donne deux choses. Ça peut donner le frisson tellement la marge de manœuvre qui reste, vous disiez, 100 milliards par an pendant 10 ans. C'est quelque chose d'énorme. Donc on peut se dire, on a encore du chemin à faire, on n'y est pas arrivé. N'oublions pas que, en ce qui concerne les projets fédérateurs d'intégration régionale, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'infrastructures, donc on pense aux routes, aux chemins de fer, etc. Un point important concerne également les infrastructures en matière énergétique. Et en ce qui concerne l'Afrique, c'est un point noir malheureusement aujourd'hui, c'est que la difficulté à être pour les pays d'être compétitifs vient de des grands problèmes en matière énergétique. Et donc il y a un effort considérable, et c'est un des projets de la BAD. Alors là, je pense que tous les candidats sont d'accord dessus, pour équiper l'Afrique en infrastructures énergétiques, parce que l'électricité reste vraiment un des problèmes importants.
Alors, dans le reportage qu'on entendait tout à l'heure d'Abdelhadi, il y a un candidat, le Tunisien Jalou Ayed, qui évoquait le développement des marchés de capitaux régionaux. Est-ce qu'il y a autant de capitaux que ça disponibles sur le marché africain? Étienne Giros, vous évoquiez tout à l'heure cette information, cette donnée-là.
Oui, je crois qu'il y en a, ils ont deux difficultés. D'abord, ils ne sont pas disponibles, en ce sens qu'il n'y a pas de bourse. Il n'y a pas de bourse importante et solide, de bourse des actions. Et donc, ça gêne. Quand une entreprise a besoin de se développer, de créer un nouvel entrepôt, etc., qu'elle a besoin de lever de l'argent, elle peut soit emprunter, mais ce qui coûte cher, on lui demande des garanties.
C'est-à-dire emprunter à une banque.
Emprunter à une banque, soit elle peut faire une augmentation de capital. Et pour ça, il faut qu'elle trouve des actionnaires qui vont accepter de rejoindre son aventure. Et ça s'appelle la bourse. Et la bourse, qui est quelquefois critiquée, ça sert à ça. Ça sert à fluidifier des circuits d'argent pour financer le développement. Et donc oui, effectivement, il y a des bourses en Afrique, bien entendu, et en dehors, en gros, de la bourse d'Afrique du Sud et de certaines bourses dans le Maghreb, ces bourses ne sont pas suffisamment actives. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que le système bancaire a de l'argent, il y a beaucoup de dépôts financiers d'argent dans les banques en Afrique. Simplement, c'est que c'est du dépôt à court terme, et que tous les projets dont on parle depuis le début de cette émission, c'est des projets à long terme. Et donc il faut transformer des ressources qui sont à court terme, dont le client peut réclamer le remboursement rapidement, alors qu'on va financer une usine, une centrale électrique ou un chemin de fer sur 20 ou 30 ans. Donc il y a juste un tout petit problème technique de transformation de l'argent à court terme en emploi à long terme.
Gilles Dufresneau.
Oui, alors vous savez, vous avez parfaitement raison, il y a actuellement un projet d'intégration financière en Afrique, d'intégrer des bourses. Il y a un pays qui est le Nigeria, qui est peut-être en Afrique de l'Ouest le pays qui en matière financière a le poids le plus important. Il y a actuellement un projet qui consiste à vouloir rapprocher les bourses du Nigeria, du Ghana et la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, qui existe à Abidjan, oui, qui existe, mais qui pourrait peut-être être plus active. Et donc ça, c'est un projet, à mon avis, auquel la BAD va devoir s'intéresser aussi, l'intégration régionale, y compris dans le domaine financier.
Alors, je le disais tout à l'heure, le thème de réflexion des experts, des ministres qui se réunissent la semaine prochaine à Abidjan, c'est l'Afrique et le nouveau paysage mondial. On a vu des réunions importantes à Paris sur le resserrement des liens avec l'Afrique, la même chose à Washington. Et les dirigeants chinois et africains se rencontrent régulièrement, soit sur le continent, soit à Pékin. Est-ce qu'à vos yeux, l'Afrique occupe aujourd'hui une place plus importante sur la scène économique mondiale que par le passé, Gilles Dufresneau ?
Oui, en tout cas, tous les acteurs s'accordent à reconnaître qu'il y a non seulement un potentiel, mais qu'il y a actuellement quelque chose qui change en Afrique. Il y a plusieurs choses qui changent. Il y a d'abord des facteurs démographiques importants. L'Afrique vit actuellement ce qu'on appelle sa transition démographique, c'est-à-dire que les taux de fécondité commencent à diminuer, alors qu'en même temps l'espérance de vie augmente, que la mortalité commence à diminuer. Et donc, on peut considérer que potentiellement, à l'horizon 2050, l'Afrique va devenir un des grands réservoirs en matière de capital humain, alors que partout ailleurs dans le monde, là, on a une démographie qui est plutôt un peu plus vieillissante. Donc ça, c'est l'Afrique va devenir un des réservoirs de main-d'œuvre. Évidemment, pour qu'elle puisse en bénéficier, il faudra évidemment que cette main-d'œuvre soit formée. Donc il y a cette chose-là qui est en train de se passer. Et puis la deuxième chose importante, c'est que il y a peut-être, même si cela se fait de façon parcimonieuse et différente, un rythme différent suivant les pays, quelque chose qui se passe au niveau du climat des affaires. Il y a eu un certain nombre de développements autour de essayer de lutter contre la corruption, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est également en train de se passer.
Étienne Giraud, vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Oui,
climat des affaires en particulier.
Oui, l'atmosphère a changé. Moi, ça fait 35 ans que je circule en Afrique. Et dans les années 90, c'était le continent où les gens avaient peur d'aller, pas de croissance, des guerres, des maladies, etc. Et aujourd'hui, c'est le continent où il faut absolument être, et je crois que c'est vrai qu'il y a un potentiel énorme. Donc, l'atmosphère a totalement changé. Il reste encore deux choses quand même, et je pense que si on est ami de l'Afrique et qu'on veut réussir, il faut dire les choses. Les deux choses qui restent à faire, c'est d'abord l'environnement, les infrastructures, le développement, la formation, etc. Et la deuxième chose, c'est la gouvernance et l'environnement général politique, si vous voulez.
Voilà. Alors, thème de débat probablement lors de l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement la semaine prochaine à Abidjan. Cette émission est maintenant terminée. Elle a été réalisée par Guillaume Munier et Boris Vichist. Merci à vous, Étienne Giraud et Gilles Dufresneau, d'y avoir participé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.